Bonjour à tous, bienvenue dans Le Labomatique, votre émission dédiée à la recherche scientifique rennaise sur Radio Campus Rennes 88.4. Et cette semaine, on va parler des sciences de l'éducation et plus particulièrement des problématiques de scolarisation et de socialisation dans les quartiers populaires. Pour cela, j'accueille cette semaine Pierre Perrier, directeur du département des sciences de l'éducation à l'Université Rennes 2. Pierre Perrier, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez au sein du Centre de recherche sur l'éducation, des apprentissages et de la didactique. Vous vous intéressez à plusieurs thématiques de recherche, tout en lien avec les quartiers populaires. Alors ma première question, qu'est-ce qu'on entend par quartier populaire ?
Écoutez, on est effectivement en milieu urbain et on a sur ces quartiers des populations qui... rassemble un certain nombre de caractéristiques économiques, d'origine ethnoculturelle, de catégories socioprofessionnelles et évidemment aussi d'un certain rapport à l'école. Il n'y a pas une seule caractéristique pour définir ces familles, mais un ensemble et leur localisation sur ce qu'on appelle donc des quartiers populaires ou quartiers défavorisés, mais parfois ce sont aussi des quartiers ségrégés, hein, lorsque des populations ayant des caractéristiques communes sont regroupées sur certains territoires et ces regroupements ayant des effets d'accentuation des inégalités entre les quartiers. Mais il est vrai que les quartiers populaires ont changé, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine, trentaine d'années maintenant, on avait des quartiers à dominante ouvrière, des quartiers où il y avait des solidarités de voisinage, où il y avait du lien social. Et on perçoit bien, et les enquêtes le montrent, que ce lien social se défait, alors inégalement selon les quartiers, mais ces quartiers sont plus fragiles parce que les conditions de vie des familles sont aussi plus précaires.
Est-ce que quartier populaire veut forcément dire zone d'éducation prioritaire ?
Non, pas nécessairement, d'autant que les ZEP sont en train de s'effacer du paysage progressivement. On est passé par différentes étapes dans cette politique. Disons qu'au moment de la création des ZEP en 1981 et à la suite des différentes relances, effectivement, il y a eu une imbrication de plus en plus étroite entre l'éducation prioritaire, les politiques compensatoires en matière d'éducation, et ces quartiers populaires, et donc précisément les enfants, les jeunes de ces quartiers auxquels cette politique compensatoire était dédiée de façon prioritaire. Donc on a eu une imbrication à telle enseigne que maintenant, d'ailleurs, c'est la politique de la ville, d'une certaine manière, qui prend en charge les quartiers et les problématiques de réussite éducative dans ces quartiers. Donc on n'a pas partout des ZEP ou des politiques compensatoires dans les quartiers populaires, mais quand on les trouve, c'est assurément dans des quartiers populaires. Voilà.
D'accord, alors vous vous intéressez plus particulièrement à la relation entre les enseignants et les parents issus de ces quartiers populaires. Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à cette thématique ?
Bien, moi je suis sociologue de formation, sociologue de la famille, sociologue de la culture et des cultures populaires. Donc je me suis intéressé, chemin faisant, aux questions évidemment d'éducation et de socialisation et de scolarisation de fait, étant en sciences d'éducation à Rennes 2, avant à l'UFM de Bretagne. Donc ces questions se sont un peu imposées à moi et puis sont un enjeu de connaissance et social également, hein, de savoir comment ça se passe du côté de ceux pour lesquels les scolarités sont plus chaotiques, pour lesquels les difficultés sont récurrentes et comment se fait-il que ces parents-là, plus souvent que les autres, soient un peu taxés de démissionnaires ou de parents qui ne s'intéresseraient pas en tous les cas, pas comme il le faudrait, à la scolarité de leurs enfants. Donc j'y suis venu assez... assez progressivement, avec en parallèle, on y reviendra sans doute tout à l'heure, des enquêtes nationales sur l'insertion des professeurs débutants dans le secondaire. Et quand on s'intéresse à ces enseignants, on porte la focale sur justement les quartiers populaires, parce que vous savez qu'un grand nombre d'entre eux sont affectés dans des académies déficitaires et sur des postes qui sont assez souvent difficiles. Donc il y a en fait une relation entre les débuts dans le métier pour les jeunes professeurs et ces quartiers populaires où vivent ces familles et ces jeunes. Donc le lien s'est un peu fait comme ça.
D'accord, alors vous avez déjà répondu plus ou moins à la question, mais rapidement, pourquoi la relation parent-enseignant est-elle particulièrement intéressante à étudier dans les quartiers populaires ?
Parce qu'elle pose un problème du côté de l'école. Hein, les enseignants voient souvent dans les familles des obstacles peut-être, parfois même le problème des difficultés de l'enfant. Hein. Je le disais, ils ont un regard assez critique, parfois sur ses parents, mais parfois ils essaient aussi de mettre des dispositifs et des actions en place pour essayer de rapprocher les parents de l'école, hein, comme on dit. Et pourtant, ça ne fonctionne pas bien et les problèmes sont récurrents, alors même qu'on pourrait penser que c'est plus utile de voir ces parents-là que d'autres qui sont présents, voire surprésents dans l'école. Donc ce qui m'intéressait, c'est de comprendre un peu les logiques de ces familles et ce qui fait qu'il y ait ces freins, ces obstacles, ces seuils symboliques un peu infranchissables, comme peut l'être le seuil de la porte d'entrée d'une classe ou le portail d'entrée d'une école. Il y a des parents qui ne franchissent pas parce que du coup, de parents, ils deviennent parents d'élèves et pour certains, c'est une compétence qu'ils n'ont pas. La problématique, si vous voulez, c'est de lever les implicites, les attendus de l'école qui s'adressent à tous les parents, alors même que tous les parents n'ont pas les compétences et les ressources nécessaires pour répondre à cette attente de l'école.
D'accord. Alors, comment se déroule votre travail pour étudier cette thématique ? Vous étudiez un quartier en particulier, plusieurs quartiers en France, à Rennes ?
Alors, j'ai mené plusieurs campagnes d'enquête. Une première série dans les années 2004 à l'occasion du grand débat sur l'école. Donc, j'ai eu l'opportunité d'exploiter des tables rondes et des entretiens qui avaient été faits dans trois grandes villes. Du coup, ça m'a donné tout un matériau, comme on dit dans notre jargon, donc qui m'a permis d'écrire École et Famille Populaire sur la sociologie d'indifférent. Et plus récemment, j'ai travaillé sur un quartier à Rennes, un quartier qu'on peut qualifier de populaire, quartier de Maurepas, durant deux ans, qui est un quartier en réussite éducative, hein, donc des dispositifs de la politique de la ville, où on a suivi, donc il y avait une petite équipe avec moi, notamment des étudiants de Master 2, on a suivi des jeunes et des parents, ainsi que les enseignants, à l'école élémentaire et au collège sur deux ans, hein, du CM2 jusqu'à la fin de sixième et même un peu en cinquième s'agissant des enseignants. Donc des méthodologies qualitatives, hein, avec des entretiens, des tables rondes, mais aussi l'exploitation de documents qui sont dans les écoles et les collèges, comme par exemple tout ce qui nous renseigne sur la scolarité antérieure ou les caractéristiques des familles des élèves que nous avons rencontrés.
D'accord. Et au niveau des résultats, du coup, enfin, vous avez beaucoup observé, vous avez fait des entretiens. Vous avez déjà des résultats
Oui, c'est en cours d'exploitation, mais on a quand même de premiers résultats qui montrent quoi ? Qui montrent que ces parents ne comprennent pas toujours exactement ce que l'école attend, hein, de leur côté, parce que l'école, c'est quand même un monde assez opaque pour ceux qui l'ont peu fréquenté, pour ceux qui arrivent d'autres pays, hein, dans des conditions parfois très difficiles. C'est le fait aussi que ces parents ne peuvent pas, même s'ils perçoivent cette attente, répondre à l'attente de l'école, parce qu'on leur demande, prenons un exemple, de suivre les devoirs de leur enfant à la maison, mais suivre les devoirs suppose une compétence qu'ils n'ont pas nécessairement. Donc on voit tout de suite les difficultés pointées. Alors les difficultés dans la maison, puis les difficultés qui deviennent des difficultés aussi dans les relations avec, avec l'école et les enseignants, qui pensent que les parents ne suivent pas, et des difficultés pour l'enfant, qui est un petit peu à l'interface hein, entre le monde scolaire et sa famille. Donc des parents qui peuvent à la fois être de bonne volonté, mais ne savent pas comment faire ou risquent de mal faire. Hein. Et donc, ils sont en situation de porte-à-faux vis-à-vis de l'école. Donc finalement, une des réflexions, c'est de se demander si il faut chercher une réponse du côté d'une meilleure communication, comme on entend souvent, avec les familles, puisque ces parents-là, en réalité, souhaitent plutôt faire confiance à l'école, qu'ils jugent compétente, et donc, d'une certaine manière, ils s'en remettent à l'école. Hein. Ils pensent que leur enfant, son instruction, son éducation, quand il est à l'école, c'est la responsabilité de l'école. Donc, plutôt dans une logique de séparation, enfin, de complémentarité, on va dire, mais quand même dans des territoires et des temps séparés. L'école d'un côté, la famille, la maison de l'autre.
Et alors, du coup, est-ce que dans ces quartiers-là, l'attente des parents vis-à-vis des enseignants est plus importante ?
L'attente des parents est très élevée. Ils espèrent beaucoup en l'école et ils espèrent d'autant plus qu'ils possèdent peu par ailleurs. Hein. Donc, quand vous avez peu économiquement, peu par votre réseau social, l'avenir de vos enfants, c'est l'école. Mais ceux qui espèrent beaucoup sont ceux qui peuvent le moins. Hein. Donc, on a un peu cette situation paradoxale. Donc, effectivement, ils attendent beaucoup et peut-être trop. À certains égards de l'école, mais on s'est rendu compte aussi dans la recherche qu'ils attendent beaucoup de l'enfant lui-même. Donc il y a une forme de double délégation, une délégation à l'école et une délégation à l'enfant. Mais peut-être que c'est trop demander à l'enfant que de lui demander en fin d'école élémentaire et en début de collège avec aussi la socialisation avec les pères, la construction de l'identité à cet âge de l'adolescence, etc. Lui demander d'être responsable de sa scolarité. Et pourtant, c'est un petit peu ce qui se produit pour lui. Et je pense qu'un certain nombre de décrochages scolaires, et encore, il faudrait préciser que le décrochage scolaire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'école, ça veut dire qu'on peut y être, mais qu'on pense à toute autre chose, qu'on n'est pas mobilisé dans l'activité cognitive. Et donc le décrochage scolaire s'amplifie en début de collège. Ça, c'est quelque chose qu'on note assez bien.
Et alors pareil, est-ce que les enseignants ont une attente particulière vis-à-vis des parents dans ces quartiers ou...
Ils ont une attente élevée de leur côté aussi, puisque les enfants présentent des difficultés, parce qu'il est plus difficile de les faire progresser et réussir. Donc les enseignants se tournent vers les parents qui, de leur côté, ne savent pas, on le disait, hein, comment nécessairement répondre à cette attente. Donc on a un petit peu un jeu où chacun se renvoie la balle, la responsabilité, sans qu'il y ait de médiateur pour un peu réguler, essayer de poser le problème de façon à trouver les complémentarités et à surmonter ces difficultés. Donc oui, il y a une attente de l'école et des enseignants, mais peut-être que là aussi l'attente est trop élevée. C'est-à-dire que les enseignants pensent que les parents vont pouvoir aider dans des domaines où ils ne sont pas compétents en réalité.
On s'accorde une petite pause musicale. On écoute tout de suite The 8 Minutes avec le titre One Life. Can worry about your next door neighbors having more than you. Spend your time just keeping up with them. And the rat race that you're into is the only thing to do. But you're gonna find that it will never end. I can have it, I don't want it. You can keep it, I don't need it. Cause baby I got a one. Got one life to live, one life to give. I'll live it and to give it my way. I've got one life. One life to live, one life to give. I'll live it and to give it my way. Yes, I will. Waste your time just living everybody's life but yours, and you'll never see that you are.
are still alone. If you think that love is learned from magazines you buy in stores, then you'll never have a love to call your own. But if you dig it, but you can't keep it, I don't need it. You can have it, girl, I don't want it. But baby, I've got one, I got one life to live, one life to give. I live it and give it my way. I've got one life to live, one life to give. I live it and give it my way, yes I will. Baby, 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 your dreams are carbon copies of what someone else has said, while I've looked inside myself to see what's mine. The only measure of your living is the money that I make. I can't hang around and watch you waste my time, 'cause baby, I got one, I got one life. I've got one life to live, one life to give. I live it and give it my way. I've got one, I got one life. I've got one life to live, and I live it my way. One life to give, I give it my way. Come on now, I got one life. Come on, come on, baby, yeah. I got one life. I got one life to live. I live it my way.
De retour dans le Labomatique sur Radio Campus Rennes, je suis toujours en compagnie de Pierre Perrier. Alors on va parler maintenant d'une autre thématique à laquelle vous vous intéressez également. Il s'agit des jeunes enseignants du secondaire, donc on entend par secondaire collège et lycée, qui travaillent donc dans les quartiers populaires. Alors en quoi cette thématique est intéressante et
Alors, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de mettre en regard ce que les familles disent et attendent de l'école et ce que les enseignants disent et attendent des familles. Hein, et donc, mettre en relation et en tension le monde scolaire avec le monde hors l'école. Parce que aujourd'hui plus qu'hier, il y a une interdépendance entre ce qui se passe dans l'école et dans la classe et ce qui se passe hors les murs de l'école. Donc, c'est intéressant de croiser les regards et les points de vue des uns et des autres. Alors, j'ai eu l'opportunité de le faire à travers des enquêtes auprès des jeunes enseignants pour me rendre compte qu'effectivement, étant plus souvent, s'agissant du second degré, dans donc collège, lycée, dans des quartiers populaires, sur des postes qui sont laissés vacants, parce qu'en général, ce n'est pas les postes les plus faciles, géographiquement les plus éloignés, dans des académies déficitaires. Et donc, ces jeunes enseignants, effectivement, rencontrent des difficultés. Alors, ils rencontrent des difficultés de plusieurs ordres. À la fois parce qu'ils sont novices dans le métier, donc ils apprennent sur ce premier poste. Donc, il y a cette phase propre à l'expérience du professeur débutant, mais aussi parce qu'ils sont dans des quartiers au contact de populations qu'ils n'ont pas nécessairement croisées dans leur propre expérience et scolarité. Donc en même temps qu'ils découvrent un métier, ils découvrent des populations, des cultures, un environnement social qu'ils n'ont parfois pas côtoyé. Donc vous voyez, il y a une double exigence, c'est à la fois acquérir du métier hein, dans ce moment des débuts et essayer de comprendre un peu qui sont ces élèves et leur famille. Et tout ça se passe sur un temps très très court. C'est très très condensé hein, dans l'expérience des enseignants et c'est la source d'épreuves, c'est la source de souffrances, diront certains, parce qu'effectivement, on a un certain nombre de témoignages qui montrent que les enseignants sont en difficulté pour transmettre ce qu'ils savent, pour exercer le métier auquel ils s'étaient préparés, qu'ils pensaient sur le modèle de ce qu'ils ont connu quand eux-mêmes étaient élèves, et finalement ils découvrent un tout autre métier parce que les élèves ne sont pas ce qu'ils avaient imaginé. Donc il y a une déstabilisation des jeunes professeurs qui est un enjeu, hein, parce que certains s'épuisent, d'autres fuient, hein, et au final, les élèves pâtissent aussi des difficultés que rencontrent les enseignants.
Vous parliez tout à l'heure du décrochage scolaire. Est-ce que ça fait partie de ces difficultés-là, notamment ? Et est-ce que justement le décrochage scolaire touche plus les établissements situés à côté des quartiers populaires ?
Je pense qu'il y a deux manières d'aborder les enjeux de scolarisation et de socialisation des élèves dans les quartiers populaires. Du point de vue de l'enseignant, hein, il y a d'une part la question de la discipline dans la classe, l'ordre scolaire. On constate que les jeunes professeurs, hommes et femmes, ont des problèmes de discipline, d'autorité dans la classe. Alors, ça ne se décrète pas, l'autorité, ça se construit. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il ne s'agit pas d'avoir l'ordre et la discipline pour avoir l'ordre et la discipline dans la classe. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut voir quelle utilité pédagogique ça a, à quelle fonction pédagogique et d'apprentissage se remplit. Et de ce point de vue, on sait que plus le climat est discipliné dans la classe, plus le temps d'apprentissage est optimisé. Hein, donc le désordre dans la classe, ça veut dire moins de temps pour apprendre. Donc les élèves se dispersent, les élèves sont perturbés, donc ils travaillent moins. Donc ils ont moins de temps. Donc ceux-là même qui ont besoin de plus de temps en ont moins lorsqu'il n'y a pas de discipline dans la classe. Donc ça, c'est un premier enjeu et beaucoup de professeurs sont en difficulté sur des questions de discipline. Et deuxième difficulté, c'est le rapport au savoir des élèves. Les élèves, ils ne sont pas, en particulier dans ces quartiers, mais pas seulement d'ailleurs, nécessairement disposés à apprendre dans la matière que l'enseignant veut leur transmettre ou sur le mode où l'enseignant veut leur transmettre ses savoirs. Donc il faut créer des dispositifs d'apprentissage, trouver des formes pédagogiques, être dans une relation avec les élèves, ça c'est extrêmement important aussi, où ils vont pouvoir trouver leur place et donner du sens à leur présence à l'école, du sens aux apprentissages dans lesquels on essaye de les mobiliser. Et de ce point de vue, je pense que la formation des enseignants aide beaucoup à construire des dispositifs d'apprentissage. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, hein, parce que les configurations de classe sont très très différentes d'une classe à une autre, voire pour une même classe, d'une heure à une autre. Hein. Il y a des ambiances de classe, on a tous été élèves, qui font que d'une heure à une autre, ça peut être extrêmement, extrêmement différent. Donc, donner du sens au savoir, aux apprentissages, c'est un enjeu et un combat presque, j'ai envie de dire, quotidien pour les professeurs. C'est jamais gagné.
Donc finalement, il découvre un peu un rôle social et un rôle vraiment éducatif pour le coup.
Oui, alors là-dessus, il faut peut-être préciser les choses parce qu'on a tendance, moi-même peut-être, j'avais eu un peu ce penchant au début de mes recherches, à penser que si les enseignants s'écartaient de la mission de transmission des savoirs, ils ne faisaient pas leur métier. Et en réalité, cette mission, elle reste centrale, mais elle est insérée dans quelque chose de plus large, qui a une dimension éducative, voire parfois sociale. Mais les enseignants ne rechignent pas à concevoir que leur métier a aussi une dimension éducative. Après tout, que les savoirs émancipent le sujet, ça fait partie d'un processus d'éducation, pas simplement d'un processus d'instruction. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement que les élèves s'approprient des savoirs, il s'agit aussi qu'ils en tirent profit, hein, pour eux, dans leur construction en tant que sujet, pour leur construction identitaire, pour leur relation aux autres et au monde. Donc, il ne s'agit pas simplement à l'école d'instruire des élèves, il s'agit de fabriquer des sujets. Et je crois que les nouvelles générations enseignants l'ont compris, hein, qu'il y avait aussi cette mission-là qui était assignée aux professeurs. L'école, c'est une instance de socialisation, c'est une institution, et pour beaucoup de jeunes, notamment dans ces quartiers populaires dont on parle, c'est peut-être la principale instance de socialisation. Donc c'est là qu'on va fabriquer les sujets, les citoyens de demain, et donc c'est une mission à la fois difficile, exigeante, mais très stimulante pour beaucoup d'enseignants.
Alors, vous parliez de la formation tout à l'heure. Est-ce que justement la formation dont disposent ces jeunes enseignants actuellement, elle est suffisante pour pouvoir faire face à ces difficultés ?
Non.
D'accord.
Alors, deux éléments de réponse. Bon, elle n'est pas suffisante dans les conditions que vous connaissez d'une masterisation à marche forcée où la part de stage professionnel est devenue peau de chagrin, donc ne suffit pas parce qu'on sait qu'une grande partie du métier s'acquiert en l'exerçant. Donc, il faut en passer par la pratique et l'analyse de la pratique. Hein. Ce n'est pas la pratique en tant que telle, c'est le regard qu'on va porter sur sa pratique, la réflexivité, comme on dit, des acteurs, l'analyse des pratiques qui vont être riches d'enseignements. Donc ça, c'est une première chose. On peut espérer que les politiques de formation vont évoluer assez vite. La deuxième chose, c'est de considérer que tout le métier ne sera pas dans la formation. Une partie du métier s'apprend en exerçant, c'est évident, mais la diversité des conditions d'exercice du métier aujourd'hui fait qu'aucune formation ne pourra prévoir toutes les situations auxquelles les enseignants devront faire face. Donc il y a un côté beaucoup plus imprévisible hein, dans le métier. Moi je parle d'imprévisibilité pédagogique, voire dans certains cas d'insécurité pédagogique. Vous voyez, sentiment que vous ne savez pas du tout comment les élèves vont se comporter, si ça va les intéresser ou pas. Donc un sentiment d'insécurité pédagogique et aussi un sentiment de vulnérabilité chez les enseignants. Et des situations inédites. On a des choses tout à fait étonnantes avec, par exemple, tel élève qui va contester une règle de grammaire, c'est une fille en l'occurrence, elle n'a pas envie d'apprendre, elle va discuter cette règle de grammaire pendant 20 minutes avec le professeur. Donc il y a un travail de négociation à faire avec les élèves, d'adaptation à des situations. Et ces réponses-là, mais c'est aussi le côté, je crois, riche du métier, c'est-à-dire qu'il y a une part d'autonomie, d'initiative, de responsabilité qui incombe à l'enseignant. Donc la formation, elle est là pour donner quelques fondamentaux et des principes directeurs, je dirais, pour l'action, mais elle n'est pas là pour apporter des réponses à tous les problèmes qui se posent. Donc il faut penser la formation, exactement, repenser la formation initiale, mais il faut aussi penser l'accompagnement des jeunes professeurs. Je crois que c'est plutôt dans le va-et-vient entre ce qu'ils vivent en situation et la distance qu'ils ont besoin de prendre à certains moments pour comprendre ce qui s'est passé dans leur expérience que les choses peuvent s'enrichir et gagner en efficacité.
Du coup, pour mener cette étude sur donc, les jeunes enseignants qui arrivent dans des quartiers populaires, comment ça se passe ? Enfin, votre étude, vous suivez des jeunes là en ce moment ?
Donc les enquêtes auprès des professeurs débutants, elles ont eu lieu dans différents établissements, effectivement, principalement, puisque je m'intéresse davantage au secondaire, donc des collèges, un peu des lycées. En 2007, j'ai mené une enquête sur trois sites avec l'INRP, l'Institut National de la Recherche Pédagogique, qui s'appelle maintenant l'IFE, l'Institut Français d'Éducation, qui est à Lyon. Et donc, on a travaillé sur le site de Créteil, Lyon et Rennes. On a suivi des stagiaires, puis néo-titulaires, donc en première année en tant que titulaires sur leur poste. Donc, pendant 2 ans, une enquête longitudinale qui devrait donner lieu à un ouvrage à paraître l'année prochaine.
D'accord. Et alors, justement, pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus, je crois que vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Alors, c'est l'occasion.
Merci.
Alors, quels sont ces livres,
merci
du coup?
À vous. Alors, s'agissant des relations école-famille, hein, que nous avons évoqué en première partie d'émission, il y a École et Famille Populaire, Sociologie d'un différent avec un D. Hein, plus récemment, L'ordre scolaire négocié, parents, élèves, professeurs dans les contextes difficiles. Donc là, c'est plutôt le système des relations entre ces différents acteurs qui est analysé dans les contextes scolaires difficiles. Apparaître en septembre un ouvrage sur la socialisation professionnelle des enseignants du secondaire, parcours, expérience, épreuve. Donc c'est un ouvrage collectif là, hein, mais que j'ai dirigé, qui rassemble donc des contributions sur comment on devient enseignant, comment on vit les premières épreuves professionnelles, et une analyse aussi des dispositifs de formation. Et puis donc nous l'évoquions pour l'année prochaine, normalement un livre uniquement consacré aux professeurs débutants en termes d'épreuves du métier.
D'accord, et bien merci beaucoup.
Merci à vous.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le www.radiocampusrennes.fr. Bonne semaine à tous.